Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 juillet 1992.
Dernier cours de critique. Alors, on en a fait tout à l'heure. Avant de reprendre le cours, il y a des petites questions. Qu'est-ce que le nous comme habitus dont Aristote parle dans l'éthique? Est-ce la même chose que l'habitus des premiers principes? Constamment, il y a un équivoque sur le mot. Le nous profond pour Aristote, c'est le mot grec de intellectus. Donc vous avez le nous. Pratiquement, on traduit intellectus. Donc on traduit intelligence. Distincte de la raison. Sa contradiction. C'est sûr. est bien dans la réalité, c'est sûr. Mais le non-être n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans mon intelligence, le non-être. C'est mon intelligence qui fabrique ce premier être de raison, qui est la négation. Et à partir de cette négation, je mets en relation ce qui est, ce qui n'est pas. C'est moi qui fabrique cette relation. Et je dis opposition contradictoire. Et je dis que c'est toute la structure de ma vie intellectuelle entre l'affirmation et la négation qui s'exprime par l'axiome de contradiction. Ce que j'affirme, je ne peux pas en même temps le nier sous le même point de vue et en même temps. Et donc, ça s'oppose. Il ne peut pas y avoir simultanément être et non-être. C'est contradictoire. Affirmer simultanément être et non-être. Si vous affirmez simultanément être et non-être, votre intelligence ne saisit plus rien de l'être. Alors l'intelligence saisit quoi? Son mécanisme. Son mouvement propre. Elle est à elle-même son propre sujet. Son propre objet, je veux dire. Elle se regarde dans ce mouvement dialectique. Et elle découvre son devenir. Et le devenir de l'intelligence dépasse l'être. C'est très astucieux, ça. Parce que c'est le devenir de l'intelligence que je saisis. La loi fondamentale de l'intelligence, c'est le devenir de l'intelligence. Le conditionnement de ma vie intellectuelle. Je suis un être qui progresse. Je deviens intelligent. Vous n'avez jamais le droit de dire à quelqu'un qu'il est bête, dites-lui, que le devenir de son intelligence n'a pas encore commencé. Vous n'avez pas encore commencé d'être intelligent, mais vous avez une capacité de l'être. Tout le monde a une capacité de l'être. Évidemment, il peut y avoir des obstacles quasi insurmontable. Ça peut exister. À cause du corps. Alors on dira, il y a des obstacles insurmontables. Et il restera comme ça toute sa vie. Vous voyez, au fond, on ne peut jamais dire ça. Parce qu'on peut peut-être faire des secousses intérieures pour permettre qu'il y ait une issue. Et qui permettent qu'on puisse voir une séparation. L'intelligence va s'éveiller. On n'est pas bête. On est bête dans la mesure où on n'a pas commencé le devenir de l'intelligence. On n'a pas fait les premiers pas. Et ce qui est extraordinaire, quand on a fait les premiers pas, après ça va tout seul. C'est pour ça que la loi fondamentale de l'intelligence, c'est l'axiome de non-contradiction. L'intelligence est prise dans l'affirmation et la négation. Vous n'avez qu'à réfléchir un instant sur votre vie intellectuelle. Donc ça, vous voyez, au fond, la critique, elle est entre le concept d'être et l'axiome de contradiction. Le concept d'être, c'est ce qu'il y a de fondamental dans l'appréhension. Primo cadit in intellectu ens. Cette affirmation, saint Thomas, d'Avicenne, tout ce qui tombe dans l'intelligence et ce qui est. L'intelligence saisit tout sous ce point de vue-là, être et non-être. Et le principe, l'axiome de nos contradictions, affirmation et négation. Ça, c'est fondamental. Alors, affirmer que l'intelligence est ordonnée à l'être, c'est l'aspect objectif, appréhension. L'axiome, c'est la loi de mon devenir intellectuel. Parce que ce qu'il y a de propre à l'intelligence, c'est que elle touche l'être. Et donc l'opposition fondamentale, c'est être et non-être. Alors que dans le monde physique, l'opposition fondamentale, ce sont les contraires. Les contraires, c'est l'opposition du monde physique. Et les contradictions, c'est l'opposition fondamentale de l'être. Alors, si je ramène
raisonnement, c'est le devenir de l'intelligence. Mais voyez, dans une philosophie réaliste, le raisonnement est pour le jugement. Dans une philosophie dialectique, le jugement qui s'identifie à l'appréhension est en vue de la dialectique. Donc l'ordre est tout à fait différent. Et pourquoi ? Parce que dans une perspective dialectique, l'intelligibilité est première. Elle n'est pas seconde. Ce qui est premier dans une philosophie réaliste, c'est ce qui est. Et l'intelligibilité est toujours seconde. Tandis qu'au contraire, dans une position dialectique, l'intelligibilité est première. Et donc tout se ramène à la possession parfaite de l'intelligibilité, qui est le mouvement dialectique, qui me donne la synthèse. C'est pour ça qu'une philosophie dialectique s'achève dans une synthèse. Une philosophie réaliste s'achève dans la contemplation. C'est les deux opposés. Tant que vous n'avez pas une synthèse au point de vue dialectique, vous êtes dans la perfection. Tant que vous n'arrivez pas à contempler l'être premier dans une philosophie réaliste, vous êtes en recherche. Ce qui arrête la recherche, ce qui la dépasse, la recherche, c'est la contemplation. Mais rien ne dépasse la recherche que la contemplation dans une philosophie réaliste. Oui. Alors quand Merleau-Ponty, par exemple, dit « La philosophie, c'est la recherche », il a raison. La philosophie, c'est la recherche. Parce que la science, c'est la recherche. Mais au-delà de la recherche, au-delà de la science, il y a la sagesse. Et la sagesse contemple. Tandis qu'il n'y a rien au-delà de la dialectique. La dialectique est pour la dialectique. Et donc je suis constamment dans cette recherche dialectique. Mais il faut essayer de saisir ces choses-là, parce que ça nous aide à comprendre les deux extrêmes de notre vie intellectuelle. Alors il faudrait se demander au point de vue critique, quelle confusion y a-t-il pour aboutir à ce primat de la dialectique ? Comment l'intelligence humaine aboutit-elle à la dialectique ? Vous comprenez, hein ? C'est le conditionnement qui remplace la finalité. La finalité de la vie intellectuelle, c'est de saisir le réel pour le contempler en philosophie réaliste. En philosophie idéaliste, ou d'un réalisme qui est le réalisme de l'intentionnalité, qui est le réalisme de l'intelligibilité, c'est la dialectique qui finalise. Et la dialectique, c'est le conditionnement, c'est pas la finalité. Le conditionnement est immanent. La contemplation doit accepter qu'on contemple autre chose que nous-mêmes. Parce que quand vous vous contemplez vous-même, ça va pas très loin. C'est le ronronnement du petit chat qui trouve que c'est bon d'être auprès du feu. Vous ronronnez quand vous cherchez votre finalité dans votre conditionnement. Vous tâtez le pouls. Ça, c'est le conditionnement. étions donc dans la critique du jugement. Nous avions essayé de réfléchir sur le premier jugement métaphysique, philosophique, le jugement d'existence. Ceci est ce qui avait été comme complètement effacé de la scolastique décadente. À tel point que Husserl dit tout simplement la mise entre parenthèses du jugement d'existence. On philosophe quand on met entre parenthèses le jugement d'existence. Mais c'est une drôle de philosophie. C'est la philosophie uniquement de ce du vécu. Le jugement d'existence, c'est le mur par rapport au vécu. Je me tape la tête dessus. Parce que le jugement d'existence fait toucher quelque chose qui n'est pas votre vécu. Quelque chose d'autre que votre vécu. Que j'atteins, que je touche dans mon jugement d'existence. Ceci est. C'est ça le réalisme. Tant qu'on ne sait pas taper la tête dessus, on ne sait pas ce que c'est que le réalisme. Le réalisme, c'est dire que l'être est plus dur que mon intelligence. Hein? Qu'il y a une réalité qui résiste à mon intelligence. C'est pas drôle. J'aimerais bien que tout soit soumis à mon intelligence. Que n'est intelligent que ce que je connais. Et au fond, petit orgueil. Que ce que je connais, ce qui est en dehors de mon intelligence. Alors, le jugement d'existence qui dit ceci est, montre que antérieurement à mon intelligence, il y a quelque chose qui existe. Et ce quelque chose qui existe est au-delà. Donc, transcende. Le petit caillou transcende. D'existence. chose que l'homme n'a pas fait. Jugement d'existence et l'ultime jugement. Je découvre qu'il existe un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. Le jugement d'existence me conduit à l'être premier. Si je suis suffisamment intelligent et si je respecte l'altérité qui existe dans le jugement d'existence, l'autre, au terme de ma philosophie, je dis, il est nécessaire qu'il existe un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. Alors, évidemment, si j'ai considéré que toutes les traditions religieuses sont des mythes, qu'elles sont purement imaginatives, je ne peux plus faire appel aux traditions religieuses. C'est notre monde d'aujourd'hui, ça. Hein? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire tout simplement qu'au terme de ma réflexion philosophique et métaphysique, j'aboutis à ce jugement. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, acte pur. Et je chercherai les qualités de cet être. Je peux simplement ajouter, oui, entre parenthèses, que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais voyez, je ne m'appuie pas du tout sur les traditions religieuses. Je ramène les traditions religieuses à cette conclusion philosophique. Il est nécessaire que. C'est un jugement modal, nécessaire. Et la nécessité est là, contraignante pour mon intelligence. Si mon intelligence est fidèle au jugement d'existence, c'est la grande fidélité. Si mon intelligence est fidèle au jugement d'existence, mon intelligence doit aboutir à cette affirmation. L'intelligence peut aboutir à cette affirmation. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Je reconnais par ce jugement que l'être premier, je ne le saisis pas immédiatement. Je n'ai pas l'intuition de l'être premier. Mais je le dévoile, je le découvre par un mouvement d'intelligence. Qui est l'intelligence qui enlève des confusions, la grande confusion, l'identification de l'intelligé et de ce qui existe, la grande confusion de l'ontologisme, pour montrer que ce qui est appelle l'existence d'un être premier. Parce que ce qui est, que je constate, que je touche, ce qui est, n'est jamais premier. Pourquoi ? Parce qu'il est perdu dans la multiplicité. Mais même mon je suis n'est pas premier. Il est premier pour moi, mais pas pour mon voisin. Parce qu'à côté de moi, j'ai un être humain qui peut dire comme moi, je suis. Il le dit autrement que moi. Il n'y a aucune raison que cet autrement que moi soit inférieur à moi. Quand je dis je suis et que mon voisin dit je suis, on se regarde. Et les racines intellectuelles commencent à monter. Je suis avant toi, mais parce que je suis plus vieux que toi. Alors l'autre répond, vieille canaille, tu mourras avant moi. À ce moment-là, il rattrape, vous voyez. La priorité dans le temps n'est pas une priorité absolue. C'est une priorité relative. Et c'est toujours ce que dit celle-là. Est-ce qu'on dira aujourd'hui les luttes des générations? C'est pas autre chose que ça. Alors que anciennement, il n'y avait pas de lutte des générations. On profitait du plus âgé. Toujours parce qu'il avait une expérience plus grande. Donc il nous aidait à aller plus vite. Aujourd'hui, dans le mouvement dialectique, on aboutit à ça. C'est extraordinaire de voir ça. C'est très intéressant, du reste, de bien voir ça. Donc, j'aboutis à cette conclusion. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Et je dévoile cet être premier qui est plus ancien que moi et qui est plus jeune que moi. Alors là, je suis complètement perdu. Dialectiquement, je suis complètement perdu. Parce que cet être premier est éternel, il est au-delà du temps. Et donc la dialectique ne me dit rien de lui. Même la dialectique du maître et d'esclave ne me dit rien de lui. La dialectique ne peut pas me dévoiler l'être premier. Parce que dans la dialectique, je suis toujours dans le mouvement. Et celui qui est premier est au-delà du mouvement. L'intelligence, le nous, l'intelligence, ne peut découvrir l'existence d'un être premier que par le jugement. Que dans un jugement. Il faut donc le devenir soit en vue du jugement et que le jugement soit au-delà du devenir pour que je puisse découvrir l'être premier. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Donc, j'ai les deux extrêmes du mouvement, du jugement là. Une fois que j'ai découvert l'être premier, je peux saisir la relation de cet être premier et de moi-même. Le dévoilement du problème de la création. Et dès que j'ai découvert la création, je peux avoir un nouveau jugement, troisième jugement, un jugement de sagesse. Comparativement à l'être premier, je suis une créature. Je me découvre comme créature. C'est une découverte étonnante, ça. Je me découvre comme créature, philosophiquement parlant. Je me découvre comme étant radicalement dépendant de l'être premier. Et je vois que c'est ma grandeur suprême. Et là, la dialectique meurt. Quand je vois la relation du créateur et de la créature. La relation du créateur et de la créature montre la limite de la dialectique. Je ne peux pas mettre dans la dialectique le rapport du créateur et de la créature. C'est la limite de la dialectique, ça. Ça, c'est important. Et c'est à partir de là la naissance d'un nouveau jugement qu'on appelle jugement de sagesse, qui, dans la lumière de l'être premier, je me vois, je me considère, et je vois tout ce qui est caractéristique de la créature comme telle. Et à partir de là, je comprends au point de vue affectif, la situation propre de la créature à l'égard du créateur, qui est l'adoration. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre ces trois grands jugements qui sont, vous voyez, qui me délivrent, qui me libèrent de la dialectique. On peut dire s'ils sont trois, c'est une méta-dialectique. Oui, mais ce n'est pas une méta-dialectique, c'est un au-delà dialectique. Parce que l'être comme tel n'est pas dialectique. Le jugement de Mono, la vie n'est pas dialectique. L'être n'est pas dialectique. Il est analogique.
Alors, qu'est-ce qui est dialectique? Le conditionnement d'intelligence. C'est le conditionnement de l'esprit qui est dialectique. Affirmation, négation. Et ce conditionnement de l'esprit, il est dialectique. Mais la réalité existante est au-delà. Alors, la réalité existante qui est au-delà, dans un regard critique, implique trois moments. Ceci est. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Second moment. Troisième moment. Dans la lumière du Créateur, jugement de sagesse, la créature. Je pars du Créateur et je vois la créature. La créature qui est l'homme, qui est le philosophe. Le philosophe, c'est la créature parfaite. Parce qu'il reconnaît qu'il est une créature. Reconnaître qu'on est une créature, c'est la créature parfaite. Je me reconnais comme créature. Et ça, c'est le jugement de sagesse. Donc, vous avez ces trois niveaux de jugement d'existence. Je suis créature dans mon exister. Et je suis libre dans mon esprit. Je suis autonome dans mon esprit. Et je suis dépendant dans mon être. Alors, vous voyez, c'est ce jugement qui me libère de Feuerbach. Toute la critique de Feuerbach, toute l'idéologie de Feuerbach dégringole en face de ce jugement de sagesse. Parce qu'il confond esprit et créature. Il confond esprit et être. Alors c'est pour ça que c'est si important, ces trois jugements d'existence, en comprenant bien leur niveau, mais seul le jugement de sagesse.